Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 26 octobre 2021. Merci infiniment d'être à l'écoute de la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Un approvisionnement énergétique durable essentiel pour la croissance de l'économie iranienne, selon le président Raisi. La résistance yéménite libère de larges pannes à Marib, Shabab et Marib, bientôt libérés, selon le porte-parole des forces armées yéménites. L'agression israélienne contre le sud est une tentative désespérée pour soutenir en fait ces agents des réseaux terroristes vaincus selon Damas. Dissuasion de Moscou, l'attaché militaire allemand convoqué au ministère russe de la défense. Le représentant spécial de la CEDEAO déclaré persona non grata par le gouvernement malien. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les organes exécutifs devraient présenter leur programme proposé pour réformer les modes de consommation et respecter la justice sociale dès que possible. L'importance de fournir une énergie durable pour la croissance de l'économie iranienne et de prêter attention à la justice sociale et au soutien aux démunis ont également été prises en compte. La réunion du Conseil de coordination économique et du cabinet Saïd est tenue sous la présidence d'Ebrahim Raisi, au cours de laquelle le président de la République islamique d'Iran a chargé l'équipe économique du gouvernement de soumettre ses projets de plans concernant les modes de consommation et la justice sociale afin qu'une décision puisse être prise dès que possible. Lors de cette réunion, la question de la fourniture d'une énergie durable à l'économie iranienne avec deux axes de rationalisation de la consommation d'énergie et l'accent mis sur la justice sociale et le soutien aux plus démunis était à l'ordre du jour. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de Yahya Sari, a déclaré que l'armée yéménite et les comités populaires ont libéré jusqu'à 3 200 km² de terre dans les deux provinces clés de Marib et Shabwa au cours de leur dernière opération, promettant de libérer complètement la ville de Marib des occupants saoudiens et de leurs mercenaires. Sari a fait ses remarques au cours desquelles il a fourni tous les détails de l'opération nommée de printemps de la victoire, ainsi qu'une vidéo soulignant que l'opération a atteint de tous ses objectifs prédésignés dans les deux provinces importantes. une attaque à 5 missiles balistiques à qui a d'ailleurs tué ou blessé plus de 35 officiers et pilotes saoudiens en prenant pour cible le quartier général, le dépôt d'armes et les hangars d'avions de guerre dans le camp d'Al-Wajib dans la ville de Jizan a eu lieu peu avant un autre tir de missile ayant visé l'aéroport de Riyad, information largement censurée par les médias mainstream. Car connaître qu'Ansar Allah est capable désormais de viser les complexes militaires en plein cœur de l'Arabie et de le faire en ciblant dans le même temps Riyad et son ciel, et tout ceci sans qu'aucun missile intercepteur s'y oppose, cela veut dire que faire marche sur la capitale saoudienne ne devrait pas être impossible. Or, ce changement dans le cours de la guerre est le reflet direct des batailles intenses qui font actuellement rage dans la province yéménite de Ma'arib, assiégée par les forces d'Ansar Allah qui sont à des quelques kilomètres du cœur stratégique de la ville. L'agression israélienne contre le sud est une tentative désespérée pour soutenir ses agents des réseaux terroristes vaincus selon Damas. Les forces d'occupation israéliennes ont commis le lundi 25 octobre à l'aube une nouvelle agression contre la région du sud dans le cadre de leur agression répétée contre la souveraineté des territoires syriens. Une source officielle auprès du ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré à l'agence officielle Sana que cette agression brutale intervient après l'achèvement des réconciliations dans le gouvernorat de Deraa, le retour de la sécurité et le rétablissement de l'autorité de l'État. Il s'agit d'une tentative désespérée de l'entité d'occupation israélienne de soutenir ses outils et ses agents des réseaux terroristes vaincus. La source a ajouté que la Syrie condamne fermement cette agression flagrante menée par l'occupation sioniste qui aggrave la situation tendue dans la région et affirme le droit de la Syrie et sa capacité à riposter à ces attaques et à freiner la tendance agressive des autorités d'occupation. L'attaché militaire allemand convoqué au ministère russe de la Défense. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir convoqué l'attaché militaire allemand pour lui remettre une note relative aux propos de la ministre allemande de la Défense concernant la dissuasion nucléaire de la Russie. L'attaché militaire allemand s'est vu remettre une note au ministère russe de la Défense suite aux déclarations de la ministre allemande de la Défense sur la nécessité d'une politique de dissuasion envers la Russie à l'aide d'armes nucléaires, a annoncé le ministère de la Défense. Aujourd'hui, l'attaché militaire auprès de l'ambassade d'Allemagne en Russie a été convoqué au département principal pour la coopération militaire du ministère russe de la Défense. Nous avons attiré son attention sur les propos de la ministre allemande de la Défense portant sur la dissuasion nucléaire de la Russie et de lui avons remis une note, a indiqué le ministère aux journalistes. Selon le ministère, de telles déclarations font monter la tension en Europe et ne contribuent pas à l'amélioration de la situation. Le représentant spécial de la CEDEAO déclaré persona non grata par le gouvernement malien. Le gouvernement du Mali a déclaré le représentant spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, persona non grata. Il a 72 heures pour quitter le Mali, indique un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Selon le communiqué, le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, Hamidou Boly, a été convoqué de lundi au ministère où il a été notifié la décision du gouvernement le déclarant persona non grata au vu de ses agissements incompatibles avec son statut et le délai de 72 heures lui a accordé pour quitter le pays. Cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'adresse à l'intéressé, pardon, à travers sa hiérarchie, a souligné le gouvernement malien, qui a réaffirmé sa disponibilité à maintenir le dialogue avec la CEDEAO et à œuvrer ensemble pour la réussite de la transition. Les chefs de mission de la SADC demandent la levée inconditionnelle des sanctions contre le Zimbabwe. Les chefs de mission et chargés d'affaires de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, au Malawi, ont demandé la levée inconditionnelle des sanctions contre le Zimbabwe afin de permettre au pays d'aller de l'avant et sans entrave dans sa quête de croissance économique. Ils ont lancé cet appel dans une déclaration conjointe lue aux médias locaux par le haut-commissaire tanzanien au Malawi. Dans ses bureaux de la capitale malavienne, les chefs de mission et chargés d'affaires ont souligné que la déclaration conjointe visait à marquer la journée anti-sanctions du Zimbabwe qui tombe le 25 octobre, décrivant les sanctions contre le Zimbabwe comme illégales et punitives pour son économie, d'où cet appel à leur levée immédiate et inconditionnelle. Les États membres de la SADC expriment leur solidarité avec le Zimbabwe, alors que les effets économiques, politiques et sociaux des sanctions illégales imposées au Zimbabwe se font sentir dans toute la région, a-t-il déclaré. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Israélien. Le bombardement de la tour Al-Jala à Gaza était une erreur, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Les médias israéliens ont rapporté l'aveu d'un officier de l'armée d'occupation israélienne selon lequel le ciblage de la tour Al-Jala à Gaza, abritant les bureaux de chaînes satellitaires arabes internationales, est une opération qui a gravement endommagé l'occupation et son armée israélienne. Le journal Yediot Aharonot a rapporté que le général de division Nitzan Alon, qui a mené l'enquête sur l'armée d'occupation dans le domaine d'influence sur la conscience, a déclaré en référence au bombardement de la tour des médias à Gaza lors de l'agression israélienne contre la bande de Gaza que la destruction de la tour dans laquelle se trouvaient les bureaux de l'agence de presse équivaut à une opération consciente destructrice et une cible personnelle. Le général de division de Nitzan Alon a ajouté lors de son discours au cours d'une conférence de l'Institut de recherche sur la sécurité nationale à l'Université de Tel Aviv, « Je pense que le succès de l'armée au niveau de la propagande du public était dans une large mesure partielle et je pense que nous sommes très faibles dans la capacité d'influencer l'opinion publique à Gaza pendant les combats et nous n'avons pas été en mesure d'influencer l'opinion publique dans cette zone. Dans ce contexte, le Forum palestinien des médias a affirmé de ce lundi que cet aveu est une nouvelle preuve de condamnation de l'armée d'occupation qui mérite d'être jugée pour avoir ciblé des institutions médiatiques. Le Forum a déclaré que les déclarations d'Alon exigent une action urgente et immédiate pour tenir responsable l'entité sioniste dans divers forums forums internationaux pour ses crimes commis contre des institutions médiatiques et des journalistes palestiniens. Le forum a appelé à traduire de sur le terrain les lois et les pactes internationaux et humanitaires garantissant la protection des journalistes et des institutions de médias et de ne pas les laisser de l'encre sur papier. Il est à noter que l'occupation israélienne a accusé les journalistes de Dapé de boire du café avec des membres du Hamas dans la tour Al-Jala avant que l'agence ne démente ses allégations dans un communiqué.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous allons parler de l'adoption par la France d'une nouvelle doctrine dans la lutte contre donc l'informatique. Alors la France, plutôt la ministre des Armées, Florence Parly, a décidé de tout mettre en œuvre pour rattraper le retard sur les adversaires de la France qui semblent bien gagner du terrain. Quand on parle de tout, ça évoque également la dissimulation et la ruse, bien sûr. Alors la France a déjà eu recours à de telles méthodes, on a vu partout dans le monde, mais est-ce que cela suffit pour rattraper justement ce retard sur les adversaires qui gagnent bien sûr du terrain, surtout dans ce domaine? Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Florence Parly a présenté le 20 octobre une nouvelle doctrine pour mener le combat dans la guerre informationnelle, s'autorisant à user de la dissimulation ou de la ruse pour contrer les attaques de ses adversaires. La défense française vient de se doter d'un nouveau cadre officiel contre les attaques informationnelles à l'ère des médias sociaux. La ministre des Armées, Florence Parly, a ainsi présenté le 20 octobre la nouvelle doctrine militaire de lutte informatique d'influence visant à encadrer la cyberinfluence et contrer celle des adversaires. Le champ informationnel est un lieu de compétition stratégique et l'information fausse, manipulée ou subvertie, est une arme, a expliqué la représentante du gouvernement lors de la présentation de cette doctrine nommée L21. La lutte informatique d'influence, cela désigne l'ensemble des opérations militaires conduites en appui de nos forces dans le champ informationnel pour détecter, caractériser, contrer des attaques, pour appuyer la communication stratégique associée à une opération, a-t-elle précisé lors de sa conférence de presse. D'ailleurs, le 17 octobre dernier, le chef de la diplomatie française déclarait que le groupe de sécurité privé russe Wagner confisquait la capacité fiscale de l'État centrafricain. La ministre des Affaires étrangères de ce pays a dénoncé des propos mensongers. Il y a un acharnement et un souhait d'infantiliser la République centrafricaine et ses autorités qui doivent s'arrêter. C'est en ces termes que la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Témoin, a réagi auprès de l'AFP ce 19 octobre à des propos tenus par son homologue français l'avant-veille. Elle s'est également dit, à ce sujet, stupéfaite de la réaction extrême et mensongère de Jean-Yves Le Drian.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonsoir à vous, bonsoir à M. Hugo, mon collègue, et bonsoir à toute votre équipe. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce sujet très important.
Et tout à fait, M. Michel, tout le plaisir est pour nous. Nous allons joindre Philippe Hugon tout à l'heure, mais ma première question va s'adresser à vous, Luc Michel. Alors, comme vous dites, c'est un sujet très important, le champ informationnel qui est très, très important. La France semble perdue, les adversaires de la France gagnent du terrain et voient la nécessité d'adopter une nouvelle doctrine. Que pensez-vous?
Écoutez, la France réagit de façon militaire à ce qu'on appelle la guerre hybride menée par la Russie et l'Iran. La France est en train de perdre la guerre médiatique dans des pays comme la Centrafrique, comme vient de le montrer la réaction de la ministre centrafricaine. La France est en train de perdre la guerre médiatique au Mali et dans d'autres pays africains. Jusque-là, la France avait toujours utilisé des méthodes de voyous. L'année passée, il y a eu des faux comptes français qui ont été fermés par Facebook parce qu'ils propageaient des fausses nouvelles en Centrafrique. Il y a une opération de diabolisation permanente. Je le répète, moi j'ai l'habitude de ça, puisque je suis présenté par la propagande occidentale comme un méchant sorti des films de James Bond. Ça vous dit le niveau de ces gens. Mais visiblement, la France est décidée de passer à un stade supérieur. On n'est plus des opérations individuelles confiées à la DGSE ou à des fermatrolles, mais on va être dans des opérations qui sont menées par l'armée française elle-même, avec l'appui du Quai d'Orsay et de ses médias, RFI, Air France 24, LCI, etc., et leur équivalent allemand, par exemple, la Deutsche Welle de Mme Merkel à Pétain.
Luc Michel, c'est vrai que jusqu'ici, la France, c'est vrai qu'il a eu recours à plusieurs reprises à de telles méthodes, à de telles manœuvres, bien sûr, et jusqu'ici, en toute discrétion. Mais voilà que maintenant, Florence Parly parle directement de la dissimulation, de la manipulation, également de la ruse.
Oui, parce que là, la France sait qu'elle a perdu et elle a des comptes à rendre, notamment au Parlement. Vous savez qu'au Sénat français, c'est la droite qui est majoritaire. Il y a des commissions parlementaires, il y a des gens qui interrogent. Madame Parly a l'habitude d'être interrogée de façon très rude par les sénateurs français. Il faut donc justifier par une doctrine qui légalise les sales méthodes. Voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est qu'en Afrique, la guerre hybride, elle est en train d'être gagnée par la Russie. Je vais vous donner le rapport de force. On a une étude du Quai d'Orsay qui a été menée sur l'audimat des médias francophones il y a 2 ans. TF1, qui est la principale chaîne française, c'est 15 millions de spectateurs. Le groupe RFI, c'est 92 millions. Mais Afrique Média, qui est la principale télévision panafricaine, où je travaille quotidiennement, et qui est du côté de la Russie, c'est 220 millions de téléspectateurs estimés par le Quai d'Orsay. Les Français paniquent au cours de la dernière année dans les opérations de désinformation françaises en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Bénin pendant les élections. Elles ont été perdues par la France et maintenant dans des pays comme la Centrafrique, comme le Mali, mais aussi comme la Guinée équatoriale, les médias français sont mis à mal. Ça vous explique cette panique et pourquoi Mme Parly, elle avoue quelque chose qu'on n'avouait pas généralement dans l'Occident. Tout le monde pratique des méthodes de voyous, les Américains, les Israéliens à très grande échelle, les Turcs à très grande échelle, mais jusqu'ici, ces gens n'osaient pas reconnaître leurs propres méthodes. Ils accusaient au contraire la Russie et l'Iran de mener des opérations de désinformation et de ce qu'ils appellent des opérations d'influence. Mais en réalité, c'est la vieille parabole de la paille et de la poutre, vous savez, qui est dans la Bible. C'est en fait, on dénonce la paille dans l'œil du voisin quand on a une poutre dans son œil. La poutre, elle est du côté de l'OTAN.
Et Luc Michel, vous dites que la France souffre de désinformation. C'est la faute à qui, à votre avis?
Écoutez, il y a un appareil d'État. Il faut savoir que le pouvoir français, il ment pour commencer à l'opinion publique française. Secondement, il ment à l'opinion publique africaine. Les grands médias, ce sont des médias donc d'État. C'est le groupe TF1, LCI, RFI, France 24. Ce sont des médias payés directement par le Quai d'Orsay. Ils contrôlent des dizaines de radios libres. Ils contrôlent des journaux écrits. La France, par exemple, elle contrôle les grandes agences de presse comme l'AFP. L'AFP qui distribue l'information dans toute l'Afrique. On le voit dans la désinformation sur le Mali et la Centrafrique. À partir de ce moment-là, il y a une véritable institution du monde qui est vue par les Français. Et malheureusement pour eux, ça a très bien marché pendant longtemps. Mais aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Il y y a des médias qui ne sont plus isolés. En Afrique, il y a Afrique Média, il y a même avec le Zoom Afrique, il y a les médias russes, Russia Today, Sputnik, et c'est terminé. Il y a toutes les séries de TV et de radio qui sont dans la force de la résistance, en Irak, Liban, etc. On a essayé de réduire au silence. Vous savez qu'on a confisqué votre domaine il y a quelques mois. Malgré tout cela, évidemment, le camp occidental est en train de perdre la guerre. Et les Français sont en train, particulièrement eux, de perdre des positions, quasiment toutes leurs positions en Afrique.
Oui, merci Luc Michel. Reste avec nous, je vous prie. Nous avons d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert de questions internationales qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos invités.
Un plaisir de vous recevoir, M. Hugon. Alors, la France souffre de désinformation, voit la nécessité d'adopter une nouvelle méthode et une nouvelle doctrine pour faire face à des dates adversaires dans cette lutte donc, informatique. La France semble bien derrière les autres. Et là, justement, M. Luc Michel a fait allusion à cela.
Oh ben c'est tout à fait le cas. Il faut savoir que dans une population, qu'elle soit française ou peu importe sa nationalité, on a entre 70% et 80% des gens qui ne réfléchissent pas. Donc les États ont beaucoup ingéré parmi les médias, les radios, les télés, la presse, de façon à pouvoir défendre ses intérêts nationaux au détriment, bien sûr, de la vérité et dans le cas présent de l'Afrique, c'est une évidence. Alors aujourd'hui, il semblerait que tout ce système est en train de se retourner un peu contre les gens qui ont utilisé justement ces méthodes de désinformation. Donc il est clair que les réseaux sociaux et un grand nombre de sites internet ont vu le jour, ce qui a permis de rétablir une certaine vérité sur les ingérences occidentales en Afrique notamment. Mais bon, il apparaît clairement aujourd'hui que les États ont compris la dangerosité de ces réseaux sociaux et maintenant essayent de prendre le contrôle de ces réseaux sociaux ou du moins de les censurer, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que la censure. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, les États occidentaux, nous ne sommes plus dans des démocraties. Nous sommes dans des dictatures de l'information, des dictatures financières, mais nous ne sommes plus du tout dans une démocratie où les gens peuvent s'exprimer librement. Donc il apparaît clairement aujourd'hui que les États cherchent par tous les moyens à censurer les réseaux qui ne le sont pas encore. Alors ça pose bien sûr un véritable problème, non seulement dans la déontologie de la presse, mais également un problème de vérité vis-à-vis des peuples qui écoutent et regardent ces émissions. Donc c'est un véritable problème qui se pose aujourd'hui. Mais il ne faut pas se faire des illusions. Les États sont capables d'employer tous les moyens de façon à censurer et surtout tous les moyens pour empêcher oui. les gens de réfléchir.
Monsieur Hugon, je rappelle que donc, vous êtes reporter de guerre, donc vous êtes l'un des premiers à souffrir justement de cette censure, de cette manipulation, de la dissimulation et de la ruse dont a fait allusion Florence Parly, ministre des Armées.
Oui, alors bien sûr, Florence Parly, elle suit les ordres de son chef d'État. Enfin, si on peut appeler ça un chef d'État, on pourrait plutôt dire un sous-chef d'État, hein, puisque on a affaire à un sous-chef d'État qui est un véritable menteur, un manipulateur, un lâche, qui n'assume pas ce qu'il veut faire. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ils essayent par tous les moyens et par l'intermédiaire de l'armée française, bien sûr, de développer des services informatiques qui permettent non seulement d'espionner les gens, mais de reprendre leur vérité à leur compte, c'est-à-dire de modifier, faire de la désinformation permanente afin de modifier la façon de penser de 70 à 80% des Français. Je rappelle par ailleurs que ça marche très bien, on l'a vu dans certaines affaires où l'État était intervenu pour faire un certain nombre de dissimulations et un certain nombre de manipulations de façon à cacher au peuple français la vérité et les véritables raisons pour lequel ils le font. Donc je trouve que c'est aujourd'hui une véritable atteinte aux libertés des peuples. Et il faut bien savoir que quand on a décidé de lâcher le Covid, c'était pour écraser les peuples. Ils y sont parvenus puisqu'on n'entend plus du tout aujourd'hui des syndicats ou des partis politiques d'opposition relever la tête puisqu'ils ont trouvé ce moyen sanitaire pour faire taire tout le monde et apparemment ça marche très bien. Moi je suis très inquiet de ce qui arrive en ce moment. Cet homme s'est fait élire sous en partie La République en marche. Moi j'appellerais ça la dictature en marche et surtout cette manipulation et tous ces mensonges qui sont actuellement faits envers le peuple français, c'est une véritable atteinte aux libertés et je pense qu'on va nous installer petit à petit une véritable dictature sans char d'assaut, sans militaire, mais une dictature de l'information, une dictature financière et qui écrasera les peuples de la même façon.
Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, moi je pense que M. Hugo, je lui dis amicalement, ne place pas le problème dans sa véritable perspective. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas le contrôle de l'opinion publique française, c'est le contrôle de l'opinion publique africaine. C'est en Afrique que se déroule la guerre hybride et le choc entre les médias russes, les médias panafricains liés à la Russie et les médias français. C'est cela qui est en train de se passer pour le moment et les Français se rendent compte simplement qu'ils sont en train de perdre le terrain, non pas seulement sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, nous faisons jeu égal avec eux. Par exemple, le fan club officiel d'Afrique Média, il fait 150 000 membres. Moi-même, avec mon groupe multimédia dans différentes pages, nous touchons 2 millions de gens sur Facebook. Et nous avons des audiences considérables. Mais nous faisons jeu égal avec les médias d'État français officiels, avec RFI, avec France 24. C'est la raison pour laquelle RFI m'a attaqué nominalement, démultiplie les attaques contre Afrique Média, parce que nous avons plus de téléspectateurs qu'eux. Et dans la bataille qui s'est ouverte dans des pays, donc je le répète, comme la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Bénin, mais surtout la Centrafrique et le Mali, nous sommes hégémoniques par rapport aux Français. C'est nous qui suivons l'opinion publique, c'est l'opinion publique africaine qui nous suit, et plus du tout les mensonges de la France. Il y a toutes les semaines des manifestations à Bangui ou à Bamako, où on dit « France dégage ». Tous les protagonistes sont proches de nous, notamment au Mali ou en Centrafrique, et les proches dirigeants de ces pays savent le rôle que nous jouons. La France est paniquée, elle se rend compte que l'étouffement n'a pas marché, elle se rend compte que la diffamation n'a pas marché. On est maintenant passé à un nouveau stade. Le stade, c'est la diabolisation et ce sont les méthodes de voyous. Il faut savoir que la manipulation des médias français en France, elle est répercutée à la puissance 10 au niveau international en Afrique. En France, il y a encore quelques espaces très rares de liberté, il y a encore un peu de contestation, mais sur RFI, France 24, ou par exemple sur les médias du groupe Bolloré, il n'y a absolument plus aucune contestation. C'est la propagande pour la France-Afrique à tous les niveaux.
Philippe Hugon, est-ce que la France a perdu la guerre et il est temps de jeter l'éponge ?
Oui, ça, il est clair que la France a perdu beaucoup en Afrique. Moi, je voudrais rappeler malgré tout que la désinformation des médias français permettent de museler l'opposition, l'opposition médiatique, bien sûr, puisqu'en si vous allez dans la rue et que vous parlez à l'homme de la rue de ce qui se passe en Afrique, il n'est pas du tout au courant puisque les médias n'en parlent pas. Donc on a bel et bien un véritable contrôle des médias français. Après, sur les gens qui font de la véritable information. Alors après, bien sûr, ce qui se passe en Afrique, il est clair que ça ne date pas d'hier, puisque dans de nombreux pays d'Afrique où la France était présente, notamment au Zaïre, eh bien on a pu voir histoire de grandes manifestations, de grandes contestations. Mais là, de toute façon, je crois aujourd'hui que la France a perdu, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, son ascendant sur un grand nombre de pays d'Afrique, puisqu'il est nécessaire que ces pays se développent à leur rythme, sans avoir à subir les dictats d'États colonialistes, comme ça a été le cas de la France, mais je le rappelle également, ça a été le cas de la Belgique, ça a été le cas d'un grand nombre de pays européens qui avaient la mainmise sur un certain nombre de pays. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une véritable rébellion. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent ? Il est sûr que la France a perdu à ce niveau-là et que les pays d'Afrique vont s'affranchir de la politique française. Mais j'ai bien peur, malheureusement, que ce soit pour retomber sous une aide financière d'autres grandes puissances.
Luc Michel, est-ce que vous voulez bien ajouter quelque chose ?
Oui, je ne partage pas ce point de vue parce que c'est une erreur de mettre un signe égal entre l'impérialisme occidental et la Russie, la Chine ou l'Iran. La Russie, la Chine ou l'Iran n'ont jamais été des puissances colonialistes, elles n'ont jamais possédé de colonies. Et elles arrivent en Afrique dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant où elles donnent de l'oxygène au peuple africain. En 2015, il y avait un rapport du grand état-major français. On a demandé aux stratèges français de déterminer quel serait au cours des 20 prochaines années l'ennemi principal de la France et du bloc occidental. Les généraux français ont dit que ce serait l'alliance de la Russie et du néo-panafricanisme. Nous étions en 2015. Aujourd'hui, en 2021, la Russie est présente partout en Afrique. Elle est suivie maintenant depuis 2 ans par l'Iran. Elle est appuyée au Conseil de sécurité par la Chine. Et elle est alliée justement au néo-panafricanisme. Tous les dirigeants panafricanistes aujourd'hui, ils sont du côté russe. Et bien entendu, ce qui compte actuellement, ce n'est pas ce que pense l'opinion publique française. La France, elle va devoir dégager de l'Afrique. Ce qui se passe à Paris n'a pas d'importance en Afrique. Ce qui a de l'importance, c'est les masses panafricaines qui combattent pour le départ des Français. C'est cela qui est le domaine capital. Et c'est pour ça que Mme Barly, qui est la ministre de la guerre française, elle intervient dans ce domaine et pas du tout un ministre de l'Intérieur ou un ministre des Affaires étrangères. Madame Barly, elle est en pointe dans la contestation de cette guerre hybride, mais malheureusement, elle mène une guerre de retard.
Mais Luc Michel, est-ce que vous croyez que la France, le gouvernement français, va suivre votre conseil, ou plutôt va faire le contraire, au détriment
non,
du peuple français ?
La France essaye de se maintenir. Il y a même un projet actuellement qui a été pensé par l'amiral Cole Duffy. C'est le principal stratège français aujourd'hui. C'est le directeur des relations publiques de la marine française. L'année passée, il a publié un livre manifeste. Il veut redéfinir l'impérialisme français comme une puissance maritime mondiale appuyée sur ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Le problème, c'est que les Américains ne croient plus en la France. Il y a un projet actuellement des Américains qui est de remplacer, je viens d'en discuter dans le journal, dans le journal de Presse TV, ça passera ce soir, ils ont un projet pour remplacer les Français par les Turcs en Afrique. Et donc la France, elle a perdu le terrain. Elle a perdu face à la Russie. Elle est lâchée par les États-Unis. Et malheureusement, elle ne veut pas comprendre que le temps de l'histoire est passé pour elle. Il est passé depuis le 18 juin 1944. C'est parti depuis 1940 dans la guerre d'Adolphe.
Oui. Tout à fait. Philippe Hugon, est-ce que vous voulez bien conclure, je vous prie, en une minute ?
Oui, alors je voudrais dire, je ne suis pas vraiment de l'avis de Luc Michel quand on parle de que la Chine et la Russie n'aient jamais été des puissances colonialistes, c'est une certitude, mais ils ont des besoins économiques très importants et un grand nombre de pays d'Afrique possèdent des richesses naturelles importantes dont les Russes et les Chinois ont besoin. Donc s'il n'y a pas, bien sûr, entre guillemets, je dirais, de puissance colonialiste russe ou chinois, je pense qu'ils vont interférer également de façon à passer des accords, certainement des accords gagnant-gagnant, mais surtout les Russes et les Chinois protégeront leur approvisionnement en matières premières. Ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Mais je dois dire qu'ils arriveront en Afrique avec un état d'esprit différent, ce qui est une bonne chose pour l'autonomie des pays africains.
Philippe Hugon, reporter de guerre, expert des questions internationales. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis Paris d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. À l'occasion du bienheureux anniversaire du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, et l'imam Sadr, béni soit-il, les chefs des trois pouvoirs, un certain nombre de responsables de la République islamique d'Iran, ainsi que les invités de la 35e conférence internationale sur l'unité islamique, ont rencontré l'ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, dans la matinée du dimanche le 24 octobre 2021. Cette réunion s'est tenue à Téhéran dans l'enceinte de Hosseini et Imam Khomeini, conformément aux règles et règlements du Centre national anti-corona et dans le respect des consignes sanitaires. Lors de cette rencontre, après avoir offert ses félicitations à l'occasion des bienheureux anniversaires de la naissance du noble prophète de l'islam et de l'imam de Sadr, le guide suprême de la révolution islamique a décrit l'anniversaire de cette naissance comme étant le début d'une nouvelle ère dans la vie humaine. Il a fait référence au statut du prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, comme étant unique dans toute la création de l'humanité. En se référant à la descente du Coran sur le cœur du prophète de l'islam, le guide suprême de la révolution islamique a déclaré « Dieu, le Très-Haut, a révélé le livre au cœur saint du prophète, l'avait récité par sa langue pure, lui a confié le plan pour le bonheur de l'humanité dans son intégralité et l'a chargé de réaliser ce plan et d'exiger que ses disciples le réalisent également. » L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que la raison pour laquelle la République islamique d'Iran met tant l'accent sur la question de l'unité est justement la séparation qui existe entre les confessions musulmanes et aussi les efforts organisés des ennemis pour créer la discorde. Mentionnant que dans la littérature politique américaine est très sunnite ou chiite, est introduit depuis quelques années et il ne l'abandonne pas bien qu'il soit contre le principe de l'islam, il a déclaré. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur l'unité islamique. Comme vous le voyez, les marionnettes installées par les États-Unis créent la discorde dans le monde de l'islam, partout où elles le peuvent. Dans une autre partie de son discours, en se référant aux crimes commis contre les chiites afghans, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « L'exemple le plus récent est celui des événements tragiques qui ont eu lieu en Afghanistan les deux derniers vendredis où ils ont fait exploser une mosquée avec des musulmans à l'intérieur pendant qu'ils priaient. Qui les a fait exploser ?» Daesh, qui est le Daesh? Le Daesh est le même groupe que les Américains, les démocrates aux États-Unis ont clairement déclaré « Nous les avons créés ». Bien sûr, ils ne le reconnaissent pas à l'heure actuelle, ils le nient maintenant. Le guide suprême de la révolution islamique a ensuite proposé une solution au problème des attaques contre les chiites afghans. Il a dit qu'il était nécessaire de formuler des plans pour la question de l'unité partout dans le monde islamique. Il a déclaré dans le cas de l'Afghanistan, par exemple, « Lorsque je dis que nous devons formuler des plans, un moyen d'empêcher ces attaques est que les responsables afghans actuels se rendent eux-mêmes dans les mosquées et y récitent leurs prières. » Où et il devrait encourager les frères sunnites à fréquenter ces centres. L'ayatollah Khamenei a déclaré que l'un des objectifs de la République islamique est de créer une nouvelle civilisation islamique. Il a souligné que cela est possible, n'est possible qu'avec l'existence de l'unité entre les chiites et les sunnites. Le guide suprême de la révolution islamique a considéré la question de la Palestine comme un indicateur majeur pour montrer l'unité des musulmans. Il a expliqué si l'unité de la Palestine et des musulmans est réalisée, la question de la Palestine sera définitivement résolue de la meilleure façon. Plus nous prendrons au sérieux la cause palestinienne pour faire valoir les droits de la nation palestinienne, plus nous serons proches de la réalisation de l'unité entre les musulmans. Il a déploré l'erreur commise par certains gouvernements dans la normalisation des relations avec Israël. Il a déclaré « Malheureusement, certains gouvernements ont fait une erreur. Ils ont fait une grosse erreur. Ils ont penché en normalisant les relations avec le régime sioniste usurpateur oppresseur. Cette entreprise est contraire à l'unité et à la solidarité islamique. Ils devraient revenir sur cette question et rattraper cette grave erreur », a-t-il souligné. À l'occasion de la bienheureuse naissance du prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, est revenu lors d'un discours, d'un important discours prononcé le vendredi soir sur l'unité chiite et sunnite, en soulignant que sans une connaissance approfondie du prophète, de sa personnalité, il est impossible de connaître l'islam. Le prophète n'a cessé de défendre l'Oumma. Il revient à tout musulman d'en faire autant. N'importe quel musulman doit se sentir responsable face au sort réservé à son peuple, à son pays, et agir avec fermeté s'ils sont pris pour cible. C'est cela le véritable sens de la religion prophétique. Plus loin dans ses propos, et alors même qu'une semaine s'écoule à peine depuis les événements tragiques à de Tayouni, où sept Libanais sont tombés sous les balles des agents d'Israël, et ce, dans une claire tentative de faire déclencher une guerre civile au Liban, Saïd Hassan Nasrallah a abordé la question de la Palestine et son aspect unificateur pour tous les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. La Palestine est le point de rapprochement de consensus pour la totalité de l'Oumma islamique. Tout musulman se doit de se sentir responsable quant au sort de la Palestine. Il est même interdit que de ce qui s'y passe nous laisse indifférents. C'est tout un peuple, tout un pays, son histoire et son identité, ses valeurs sacrées qui sont usurpées. Et on ne peut ni être indifférent, ni distance de soutien tous azimuts, a certainement un prix qu'il revient à toute nation musulmane de l'assurer, a-t-il souligné encore. L'ex-chef de sécurité saoudien Saad al-Jabri, qui ne cesse de rappeler qu'il est sous la menace de mort par le régime saoudien, a fait une déclaration choc lors d'une interview avec le programme télévisé américain 60 minutes. Le prince saoudien Mohammed bin Salman est un malade mental sans piété et ne te tire pas les leçons du passé, a-t-il assuré pour la chaîne de télévision américaine CBS. Il a assuré détenir deux enregistrements sonores de MBS dans lesquels il avait dit qu'il voulait tuer le roi Abdallah ben Abdelaziz, le prédécesseur de son père, le roi Salman, et qui a régné entre 2005 et 2015. Mohamed ben Salman s'est targué devant Mohamed ben Naïef qu'il pouvait tuer le roi Abdallah. Il lui avait dit « Je peux tuer le roi Abdallah. Il me suffit d'un petit coup de main. J'ai obtenu le poison de la Russie », a-t-il rapporté. Ministre de l'Intérieur sur le régime du roi Abdallah, Mohamed ben Naïef a été le premier prince héritier du roi Salman avant d'être destitué et remplacé par MBS en 2017. Proche de ce dernier, Jabria fuit son pays cette année même pour s'exiler au Canada, où il détient la nationalité canadienne. MBS m'avait demandé de kidnapper des princes saoudiens qui s'opposent à lui et vivent en Europe, mais j'ai refusé sa demande et depuis, il comptait sur ses hommes, a-t-il affirmé. Évoquant l'assassinat du journaliste saoudien opposant Jamal Khashoggi, Jabri qualifie les hommes de MBS de criminels prêts à tout réaliser, à tout pour réaliser leurs objectifs sans égard pour le professionnalisme. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.